Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelmann. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le 13e épisode du podcast Circular Métabolisme, je parle avec Xavier Hulhoven, le coordinateur des projets de recherche action, sur la thématique de la résilience urbaine financée par Innoviris, l'administration bruxelloise de l'innovation et du financement de la recherche. On parle entre autres du constat que malgré les sommes considérables qui sont investies dans des recherches autour des thématiques du développement durable à Bruxelles et dans le monde, il existe une utilisation minime de ces connaissances et des solutions produites pour des citoyens. On se pose donc la question, si nous avons suffisamment de connaissances, pourquoi n'arrive-t-on pas à changer nos habitudes ou notre système? Selon Xavier, il faut éviter d'essayer que les citoyens adoptent des solutions, mais plutôt participent à la co-construction de solutions d'enjeux qui les concernent fondamentalement. Passer ainsi du transfert des connaissances depuis les chercheurs vers les citoyens, vers la construction commune de savoir rapidement mobilisable. Cependant, comme ni chercheurs, ni acteurs du territoire, ni citoyens n'avons encore la culture de la co-création, nous nécessitons des acteurs de transition pour transformer le rôle et l'utilité de la recherche actuelle. Découvrez avec nous certains enjeux et opportunités de la co-création pour la résilience urbaine. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire.
Mais merci beaucoup Xavier de prendre le temps de discuter avec toi. Je voulais passer un petit moment avec toi pour parler de co-création, même si souvent dans nos épisodes on parle beaucoup d'économie circulaire, de métabolisme urbain. Je pense que l'approche que Innovirus a choisi de mettre en avant, qui est la co-création, à travers ses financements de projets co-create. Et pendant maintenant, c'est la troisième édition de la résilience urbaine, je pense.
Quatrième même.
Enfin,
il y a eu l'alimentation durable.
Il y a eu l'alimentation. Et là,
c'est la troisième édition autour de la résilience urbaine.
C'est ça, mais je voulais peut-être un peu avoir un peu l'historique, peut-être de ton côté, comment vous vous êtes dit que... Avant, il y avait les appels typiques, disons, de recherche tels qu'Anticipate, qui existe aujourd'hui aussi encore, qui est la recherche prospective. Ouais. Là, vous êtes redirigé en disant que la recherche peut aussi avoir une autre connotation, une autre traduction.
Ok. Oh, l'historique d'Anticipate est un... est assez particulière. Surtout que tu la compares à Anticipate, qui lui-même déjà est un petit peu un projet... particulier dans le paysage complet des actions d'Innoviris et des finalités de la recherche qui sont appliquées, qui sont normalement financées à Innoviris. Nous, l'action co-create, elle est partie d'abord d'une critique que je dis pragmatique de ce qu'on observait ici dans les projets qu'on finançait et surtout dans l'après-projet.
Critique, tu parles de votre côté?
Oui, ou... ouais. C'était critique ou même presque frustration dans certains cas. Ouais. On s'est dit, mon Dieu, on finance tellement de projets avec quand même beaucoup d'argent. Et puis voir le peu d'impact ou d'usage même de la connaissance que ça produit. Et ça d'autant plus quand on se rend compte des enjeux de société ou autres. Et on se rend compte, on se dit, mais... En même temps, je crois qu'on a assez de connaissances. On pourrait arrêter la recherche, qu'on aurait assez de connaissances déjà pour faire déjà beaucoup de choses. Et donc, on est là un petit peu à se dire, mais comment travailler pour que cette connaissance soit beaucoup plus utilisée? Qu'est-ce qui bloque en fait? Quels sont les problèmes? Il y avait toutes les logiques de transfert de connaissances, aussi les réflexions au niveau des interfaces, de la logique de transfert de technologie. Et puis quand même, on a évolué vers le transfert de connaissances. Et donc ça, c'est une première chose qu'on s'est dit. transfert de connaissances, c'est peut-être plus tellement ça qu'il faut faire. Et là, moi, j'ai eu plutôt vent d'autres logiques qui étaient plutôt de pertinence de l'innovation, de construction conjointe de connaissances. Y avait ça. Et puis après, on s'est dit, il faut vraiment travailler autour de cette production de savoir et de faire en sorte qu'on puisse vraiment utiliser ce savoir et qu'il soit plus rapidement mobilisable. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas le travailler sur la notion de Living Lab qui était un petit peu le buzz à ce moment-là et qu'on avait dans nos plans stratégiques, en fait. On avait une phrase qui disait, pourquoi pas évaluer le Living Lab.
Mais parce qu'il y en avait eu d'autre part, je pense, dans le secteur de la construction ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait...
Pas encore, en fait. C'était avant, en fait. C'est le tout début, on avait une possibilité de travailler sur une thématique de l'alimentation durable. Et moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin que de simplement dire, on peut ouvrir une thématique pour un programme type qu'on avait à ce moment-là. C'est peut-être l'occasion de vraiment faire un nouveau programme. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas explorer cette notion de Living Lab. Après, on s'est très vite rendu compte que le Living Lab, on mettait plein de trucs là-dedans. Et qu'il y avait des notions qui nous satisfaisaient tout à fait, des notions qui nous satisfaisaient beaucoup moins, avec des écoles très différentes. Et qu'il y avait Living Lab, on pouvait mettre à la fois des logiques de testing, de participation, d'empowerment, etc. Ça a été un peu mélangé.
Oui, des Fab Labs, ça peut être un... Enfin, il y a des fois, on le met au même pied d'égalité.
Donc là, on s'est dit, mais comment on va un petit peu travailler sur ces différents curseurs? Et c'est là qu'on a vraiment commencé à travailler la question de la relation à la production d'un savoir. Et vraiment, on s'est dit, en tout cas, si on veut tenter quelque chose pour un meilleur usage des savoirs, dans cette critique pragmatique, ce qui nous pose problème, c'est qu'on est encore trop dans une logique de faire adopter des innovations et de transfert de connaissances. Et du coup, on s'est dit, il faut que les personnes concernées par le problème participent à l'expérimentation, participent à l'exploration, parce que si on n'explore pas, après ça, on se met toujours dans une posture où je dois convaincre quelqu'un ou je dois être celui qui doit être convaincu. Et ça nous semblait être très bloquant dans la possibilité d'utiliser les résultats de recherche, parce que c'était toujours quelque chose de neuf. Alors que si on fait l'exploration, la recherche ensemble, c'est plus vraiment quelque chose de neuf, puisque on découvre ensemble en même temps. Et donc, il n'y a pas cet aspect un peu clash qui vient. Voilà, maintenant, on a un super truc tout neuf. Vous prenez pas. Et donc, c'est ça qui nous a vraiment dit, il faut vraiment aller sur une... plus qu'une logique de testing dans la réalité, dans une logique de production conjointe de connaissances.
Je pense que au fur et à mesure, je pense que nous-mêmes, quand on applique pour un co-create, c'est vraiment un appel... challenging, enfin c'est, il y a beaucoup de choses à apprendre pour tous les participants, tant pour les chercheurs, parce que les chercheurs c'est plus la même recherche qu'on fait dans un co-create, et on doit, enfin c'est génial parce que tu remets à plat aussi quel est le rôle de la recherche et l'université dans la société, mais aussi c'est pas uniquement de l'expérimentation. Souvent on se dit tiens, un co-create c'est de l'expérimentation, c'est tout ce qu'on fait. C'est une expérimentation où l'expérience même est définie avec tout le monde, où le résultat est incertain certainement, mais je trouve que c'est difficile encore aujourd'hui de donner un guide d'instruction ou un manuel d'instruction sur voilà comment on co-crée, voilà comment on fait cette... production savoir. J'imagine que vous-même vous attendiez ça au début, que ça va être assez... chaque projet aura ses difficultés et chaque projet sera différent des autres, mais comment on se petit à petit s'initie à ce genre de projet finalement ?
S'initier à ce genre de projet, c'est... je crois que petit à petit, c'est dans l'interaction entre nous. je crois que nous, on est un petit peu parti, alors pas complètement sans savoir dans où on allait, mm-hmm. mais on n'a pas non plus voulu trop réfléchir à tout ce que ça relevait. On a plus voulu travailler sur une intuition que sur vraiment des références, etc. Et souvent, on me demandait au début, mais c'est quoi tes références, biblio et tout ça, qui sont à la base de Co-Create. J'en avais pas, si ce n'est des discussions avec des gens qui m'ont inspiré. Ça, je pouvais nommer les personnes. Mm-hmm. Après ça, les mots, les références sont venus par la suite.
Par accumulation, j'imagine, oui.
Et donc, c'est un petit peu ce que j'avais présenté aussi au projet 2015. Je leur avais dit, voilà, vous êtes un petit peu les Kobe aussi. Hein, on va découvrir ensemble. Et en fait, c'est le cas pour les 2015, c'est le cas pour les 2016. On est toujours en train d'expérimenter. Maintenant, je crois que les choses s'affinent beaucoup plus. On parvient à vraiment beaucoup mieux positionner où on souhaite aller et savoir comment l'expliciter. Ce qui, des fois, est difficile pour les projets qui ont déjà démarré, parce que nous, on arrive au comité de suivi avec tout cet apprentissage, et eux, ils sont partis avec un design qui était celui de l'État 2-3 ans avant. Ouais. Et nous, on arrive, on dit, en fait, c'est pas ça qu'on veut. Ben oui, c'est mais ça, vous, ça. On ne savait pas ça. Et donc, c'est aussi là qu'il faut accepter cette phase d'apprentissage conjoint pour se dire, OK, moi, je préfère qu'on dise, là, on n'est pas vraiment dans ce qu'on entend, nous, par co-création. Mm-hmm. Le projet est encore super, on continue et tout ça. Mais au moins, qu'on se dise ensemble, ce n'est pas encore vraiment ça. Parce que alors, ça ouvre l'apprentissage. Ça veut dire, mais c'est quoi qu'on veut finalement? Mais c'est ça. Ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois? Et là, on rentre vraiment dans une logique apprenante. Et j'ai pu voir, par exemple, j'ai été à un workshop lundi sur la recherche en transition en région Wallonne. Mm-hmm. Et j'ai pu voir à quel point le niveau de maturité sur la co-création avait évolué avec les projets à Bruxelles, même si on n'y est pas encore, etc.
Oui, bien sûr.
Mais waouh, on se pose déjà plus les questions du B.A.B.A. Et ça, c'est super encourageant de voir ça. Donc oui, c'est un petit peu un processus itératif et ça se fait un petit peu, à la limite, c'est un peu cohérent avec le programme. Ça se fait dans l'expérimentation où on expérimente. Quand on expérimente tout d'un coup que pendant le projet, en fait, il y a des prérequis qui ne sont pas là. Ce n'est pas parce qu'on savait à l'avance qu'il n'y avait pas ces prérequis, c'est parce qu'on découvre qu'il y a un problème et qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce projet? Pourquoi on n'y arrive pas? Et puis après, on va chercher. Et à un moment donné, moi, je suis avec un autre comité de suivi ou dans un workshop et quelqu'un me parle des prérequis de la co-création ou du croisement des savoirs. Et tout d'un coup, je fais le lien en disant, oui, mais en fait, c'est ça qui manque dans le projet. Et alors ça apparaît, et là on fait le lien.
C'est marrant parce que c'est dur pour toi, j'imagine, de te détacher des projets, vu que tu es un peu chercheur de co-création durant ces dernières années. Et je trouve que c'est assez intéressant comment, je pense que Simon Demeuck racontait ce rôle d'acteur un peu hybride, comme ça qu'on commence tous à devenir, qui a plus... On ne peut plus avoir ces rôles de casquette quand on se lance dans ce genre de projet, j'ai l'impression. Et des personnes comme lui, qui s'appellent un peu des acteurs ponts, je trouve, prennent tout leur importance, parce qu'au final, les chercheurs ne savent pas communiquer vers d'autres personnes. Les autres personnes n'ont pas l'habitude de se torturer l'esprit d'une manière, de telle manière, par exemple. Et il y a un peu ce... À l'intérieur même des projets, la coordination semble être le point le plus difficile, quoi. Enfin, il y a tellement de choses à remettre en place que ça sera peut-être uniquement des personnes qui se forment à ça aujourd'hui pour les prochains co-create. Je ne sais pas comment tu vois ça. Qui à l'intérieur même des projets est à même de jongler entre toutes ces envies, toutes ces obligations.
C'est vrai que Simon parle pas mal d'acteur pont. À la fois, je comprends ce qu'il veut signifier par là. À la fois, il faut faire attention à ne pas revenir dans une logique un peu d'interface, justement, avec de nouveau des phénomènes de transfert, etc. Ouais. parce qu'alors on réussit pas la rencontre, on reste chacun toujours chez soi et on sait que l'acteur pont va faire le relais. Je crois qu'il faut peut-être beaucoup plus réfléchir à la question en termes de transition et de dire il faut des acteurs de transition. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans la culture de la co-création. Les représentations de la recherche, de nos relations au savoir sont tellement ancrées depuis des décennies dans ce qu'on a fait que oui, aujourd'hui, on ne sait pas. On sait pas le faire. D'un côté, on va taper sur la tête des chercheurs pour dire il faut que vous sortiez de votre labo. Et quand ils le font, après on se rend compte que c'est les acteurs de terrain qui ne se sentent pas du tout légitimes pour participer à la
production
recherche,
savoir,
à la production de savoir, qui disent que ce n'est pas leur rôle, et à la limite qu'ils n'en veulent pas. Et puis les acteurs d'autres acteurs de terrain qui veulent impliquer des personnes, mais qui en fait ne veulent pas du tout faire de rentrer dans une démarche de recherche. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment un changement de presque de culture autour de la production des savoirs et d'une relation au savoir qui fait que il y a plus un travail d'accompagnement de la transition plus que d'acteur pont. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut et c'est là qu'on a encore besoin de personnes qui puissent vraiment accompagner cette transition. Et surtout, alors est-ce que je sais pas encore si de nouveau l'acteur pont est là ou pas, ce qui est difficile c'est cette rentrée dans une co-création sans effacer les diversités.
Sans homogénéiser.
Ouais. Sans demander à tout le monde d'arriver au même stade. Parce que ce qui se passe alors, c'est que j'aime pas parler de niveau parce que c'est pas ça, mais les uns, c'est comme si on devait tous aller au milieu. On perd tous nos expertises. Et ce qu'on sait vraiment bien faire. Je crois que ça vaut même dans les entreprises, ça vaut à plein d'endroits. C'est comme si là où on est compétent, une fois qu'on est compétent, on te demande d'aller là où tu n'es pas compétent. C'est très intéressant en termes de découverte, mais peut-être qu'il vaut mieux exploiter vraiment et travailler avec ce sur quoi tu es compétent. Et donc je crois que là, il y a encore ce travail de rencontre à faire, c'est à pouvoir mettre les différents savoirs et formes de savoir ensemble et pas que chacun doit faire trop le chemin de rentrer dans la sphère de l'autre. Là, il y a encore
Ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que donc cet aspect de transition est quand même fondamental quand on parle de résilience, parce qu'on part d'un état non résilient vers un état résilient, et c'était un peu en filigrane durant toutes ces années-là, co-création et résilience. Pourquoi la résilience n'est pas autre chose, quoi ? Enfin, qu'est-ce qui... Parce que la résilience, du coup, il y a une résilience sociale, une résilience environnementale, une résilience...
L'argumentaire se construit un peu comme celui que je te dis pour l'instant au niveau de la co-création. Le discours que je vais te dire maintenant n'était sans doute pas celui qui vraiment a été à l'origine du mot résilience. Ce qui était clair, c'est que il y avait deux choses. Il y avait une volonté de... les mots transition et développement durable, cela était bien présent. Et donc, il y avait une volonté de dire on ne peut plus, face aux enjeux du développement durable et de la transition, faire un appel, c'était des appels bridge à ce moment-là, sur l'environnement une fois tous les 3 ans, et encore avec une sous-thématique, une fois énergie, une fois mobilité, etc. Donc l'argument principal, c'est de dire il faut quelque chose face aux enjeux, il faut au moins quelque chose d'annuel. Et de structurel à Innoviris pour soutenir la recherche face à ces enjeux de société. Ce qui est la deuxième critique sur laquelle se base la co-create, c'est la critique de la finalité. C'est-à-dire la recherche appliquée, ce n'est pas qu'un instrument économique, c'est un instrument aussi pour répondre à des enjeux de société qui inclut l'économie, mais qui va bien au-delà. Après on voulait partir là-dessus. Après, le mot résilience est venu en disant, mais finalement, on est quand même dans une logique de recherche. Et tout ce qui est développement durable, il y a énormément de connaissances. De nouveau, on en revient un petit peu à ce fait que les connaissances sont plus ou moins utilisées. Et que peut-être que les enjeux en termes de vraiment d'innovation et de recherche ne se trouvent plus tellement là. Là, il faut faire maintenant. Il faut utiliser la connaissance et, et la mettre en œuvre. Ce, par contre, ce qui nous semblait être un angle mort, c'est le fait que justement, il y a une telle lenteur, une telle inertie, pour de multiples raisons qui font qu'on n'arrive pas à vraiment amorcer cette transition, fait qu'aujourd'hui, ce serait presque irresponsable de ne pas regarder qu'on ne va peut-être pas y arriver complètement et que peut-être que les choses vont commencer à craquer avant qu'on arrive à continuer à ce qu'on a fait, ce qu'on a l'impression en tout cas en tant qu'être humain avoir fait depuis le début, c'est gérer les choses. Et donc, on se disait, ben, peut-être qu'il faut un petit peu à un moment donné aussi que la recherche se positionne plus dans une logique d'adaptation plutôt qu'une logique d'innovation. On va trouver des idées pour gérer, pour planifier, pour mieux faire. Peut-être qu'il serait temps de se poser aussi la question comment on va s'adapter à ce qu'on appelle ces contraintes exogènes. C'est des choses qui vont maintenant nous arriver.
Face à l'incertain.
Voilà, contraintes exogènes qui après donc a débouché sur la logique de résilience en partant plus des théories de collapsologie, d'effondrement, etc. On dit, ben, il faut, voilà, au moins c'est responsable de les regarder et de dire, et si ça se produisait, ben, est-ce que la recherche n'a pas aussi un rôle à jouer là? Et progressivement, cette contrainte exogène est devenue pour nous une contrainte créative. C'est-à-dire de se dire, ben, finalement, se mettre dans cette posture-là va peut-être nous mettre dans une contrainte qui va nous permettre de créer, d'imaginer d'autres choses qui vont en fait nous faire aller complètement ailleurs et peut-être apporter des réponses. Donc finalement, la problématique n'est pas spécialement est-ce que l'effondrement aura lieu ou pas, est-ce que du coup les résultats seront intéressants ou pas. C'est que rien que la manière dont le shift mental que ça génère nous met dans une contrainte créative et nous amène à créer des solutions qui est autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous dit, là, il y a quelque chose vraiment à travailler, qui semble pouvoir, on n'y est pas encore, mais qui pourrait générer vraiment pas mal d'innovation et de regard neuf sur les choses. Et alors, le dernier élément qui nous semble intéressant aujourd'hui avec la résilience, c'est que, justement, on ne part pas de l'injonction environnementaliste ou transition écologique. On parle de la résilience comment les gens l'interprètent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que du coup, c'est peut-être pas spécialement les thématiques sur lesquelles nous, on s'attendait. On se serait attendu justement à avoir des problématiques énergétiques, écologiques, biodiversité, économie circulaire. On en a, mais ce n'est pas les premières qui sont arrivées. On en a aussi beaucoup santé mentale, logement, précarité. Et ça nous semble intéressant.
Il y aura le terrorisme certainement là-dedans. En tant que,
oui, peut-être aussi, en tout cas, le problème sur les identités culturelles. Enfin, voilà, on a beaucoup de thématiques qui montrent aussi peut-être une image de où la société en est aussi face à ces problèmes. Et je crois que ça permet aussi de travailler la transition et le développement durable dans une perspective quand même peut-être plus systémique et que finalement je trouve ça tellement un peu représentatif, c'est comme un peu si avec ce terme de résilience les gilets jaunes rencontraient la problématique des jeunes pour le climat et en fait ces projets-là se retrouvent dans Co-Create parce qu'on a travaillé la résilience, quoi.
C'est un peu ce que quand il y a eu, et d'ailleurs le dernier appel Anticipate sur la gouvernance du futur, pour moi, je me suis demandé, tiens, c'est un projet co-create ça, à la base ou quelque chose comme ça. Enfin, soit là-dedans, j'ai l'impression qu'on nous pose en tant que scientifiques de plus en plus aussi des... Allez, il y avait l'impact sociétal pendant longtemps en tant que quelque chose qu'on devait remplir comme une bonne case et tout ça, mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est prouver que la recherche a encore son lieu et son rôle à jouer dans la société. Et non seulement ça, je veux dire, qu'est-ce que vous, en tant que citoyen, chercheur, enfin voilà, le chercheur devient citoyen d'une ville et devient acteur, enfin, un espèce d'activiste de terrain, quoi. Et j'aime, enfin... Je me dis, moi, ça me pose énormément de questions sur le financement de la recherche future. J'aime beaucoup comment Bruxelles s'approprie cet enjeu-là, mais enfin, c'est clairement pas la même chose au niveau fédéral, ou c'est clairement pas la même chose au niveau européen, quoi, aujourd'hui. Je sais pas si toi, avec tes collègues homologues à d'autres niveaux, quels sont ce type de discussions par rapport à tout ça?
C'est encore très... On pousse encore les limites à tout niveau. Le changement de culture dont je parlais tout à l'heure, il se produit tous les jours dans les discussions qu'on a, soit même en interne à Inovirisme, soit même avec d'autres collègues. Même on fait des jurys de sélection, mais il faudrait presque déjà une journée complète pour entre nous comprendre ce qu'on essaie de vraiment faire avec Co-Create. Et donc là, il y a encore beaucoup d'hétérogénéité, de façon de concevoir les choses de manière assez différente. C'était un petit peu notre première grande surprise avec ce dont je parlais tout à l'heure sur les Living Labs, c'est-à-dire nous on croyait, voilà, on avait en fait en arrière-fond, j'avais en arrière-fond le Co-Create quand je pensais à Living Lab, et puis tout d'un coup j'ai découvert qu'en fait il y avait pas du tout des interprétations tout à fait normal et conventionnel de la recherche dans les Living Labs, et que ça c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc on a dû assez rapidement séparer les choses. Voilà, donc c'est en fait on vient avec on vient pousser chaque fois. Ce qui était intéressant, c'est de voir que on vient bousculer tout à tous les niveaux avec cette au début on disait ouais c'est une autre façon de faire la recherche, c'est bon, mais en fait on vient bousculer à plusieurs niveaux dans le monde de la recherche, dans le monde des acteurs de la société civile, mais aussi bien sûr dans le monde du financement de la recherche, et c'est tous les jours, c'est ce comment on finance les associations, comment on veut être cohérent entre la manière dont on évalue les projets et les personnes qu'on veut faire participer, à qui on propose de participer au projet, la logique quand même encore dominante au niveau du financement de la recherche est une logique un peu comme je le disais tout à l'heure, recherche appliquée, en fait, c'est un instrument économique. La valo, c'est quoi? C'est l'emploi et l'économie. Et donc, voilà, comment on veut faire valoir d'autres enjeux et d'autres valeurs de la recherche. L'avantage, c'est que quand on est une ville-région, enfin une région-ville, c'est qu'on peut travailler sur le développement de la ville. Et se dire, la ville est très consciente qu'il y a d'autres enjeux que l'aspect industriel et économique, et donc ça facilite sans doute les choses. Mais même au niveau européen, la logique est encore forte, d'une logique de recherche pour soutenir la croissance et la compétitivité, même si après.
L'excellence, machin.
Voilà, et on est encore fort là-dedans, et ça se joue des fois dans des choses très pratique, mais la question par exemple qui se pose maintenant, c'est le taux de financement d'acteurs économiques qui doivent apporter une quote-part dans leur projet. Mais tout simplement, comment on fait pour impliquer des acteurs économiques dans un projet de recherche et innovation alors que le return en quelque sorte est plus un return pour le développement de la région et pour ses enjeux de société que pour l'acteur économique lui-même. C'est un peu, alors on peut le retransporter dans le monde rural, mais aller dire à un agriculteur aujourd'hui, vous devez passer à de l'agroécologie, pour ça vous devez faire de la recherche, peut-être que vous n'allez pas gagner autant, en tout cas les premières années, mais en plus vous allez devoir mettre 20% de votre de financement dans le projet. On n'aura jamais cet acteur économique. Oui, mais alors comment il fait pour, alors qu'on a besoin de lui, parce que c'est lui qui a le savoir du métier et qui peut influencer les choses.
Donc, et qui là, va l'appliquer au final, quoi. Enfin.
Voilà, donc là, c'est le genre de truc où on voit qu'on doit encore un petit peu... on essaie alors de naviguer là-dedans, de voir comment on peut être le plus clair, mais aussi de permettre quand même cette ouverture. L'avantage, c'est que ça nous met chaque fois en avant sur sur la réflexion. Hein, parce que du coup, on va regarder exactement, mais comment on fait? On fait comme ça. Ah, mais du coup, peut-être que ce texte de loi-là veut dire ça et on peut du coup l'appliquer comme ça. Un peu ce qui se passe dans Phosphore aussi.
Ouais. Mais peut-être pour en finir, je parlais avec Anthony tout à l'heure également, cette idée de capitaliser le savoir, au final, comment tu vois ça à la fin, vu que... Le fondement de Co-Create, c'est la création de savoir partagé. Comment on peut s'assurer que finalement le savoir, que ça soit de co-create ou tout type de co-création, est quelque chose qui va peut-être vivre au-delà des personnes qui étaient autour de la table, mais qui va peut-être sortir de ce petit cadre, quoi.
Ouais. Ça reste encore vraiment un morceau à travailler, parce que par la critique même et l'origine même de l'action, ce que nous on voulait, c'est d'abord l'usage de ces savoirs, moins que la capitalisation, parce qu'on était beaucoup trop, on trouvait dans la capitalisation où on accumulait les documents, les rapports,
Oui, c'est pas exactement ça que j'ai parlé.
Donc nous, le projet le plus réussi, c'est quand.
Comment augmenter les usagers plutôt, la question, ou comment.
L'échelle.
Oui, c'est ça.
Là, on est encore un peu dans l'ordre de l'intuitif, hein, mais. On pense que le fait que quelque chose se produise réellement à petite échelle aura plus d'impact qu'une connaissance qui produite à grande échelle mais dont personne ne s'approprie.
Ça, on est d'accord. Ça, je pense que c'est le bon fondement. C'est comment on va au-delà, quoi. Est-ce qu'il y a une espèce de mise à l'échelle de la connaissance qui est possible?
Il doit y avoir des théories là-dessus, mais c'est un des points problématiques. C'est encore une des remises en question du savoir, dans le sens où on essaie justement de le pari qui est fait, c'est de travailler sur des savoirs dissitués, des savoirs contextualisés, beaucoup plus locaux. Et on n'a peut-être pas encore. Alors je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà étudié ça, mais nous on n'a pas encore. Je peux pas encore. De dire voilà les théories qui disent que ce savoir-là peut aussi être décontextualisé, recontextualisé. Nous, c'est un petit peu ce qu'on propose, hein, c'est travailler sur cette décontextualisation, recontextualisation. Mais en même temps, tu vois, on évite trop de rentrer dans cette discussion-là, parce que c'est en fait le premier argument qu'utilisent les gens pour dire que ça n'a pas de valeur scientifique, les connaissances produites. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être une
sorte de... Le
futur nous le dira. Moi, je crois que quand j'entends des gens qui disent que des choses qu'ils ne pensaient pas possibles deviennent possibles, ou qu'ils sont maintenant...
quand on bouscule, ça devient...
Voilà, que des projets, des personnes, des savoirs citoyens, quoi, sont commencés à être connus et écoutés, et que le regard change sur la sauce quand elle vient présenter à Good Food son truc, ou quand on vient présenter comment gérer l'eau autrement, et que c'est plus... les personnes disent que le regard de l'administration sur nous a changé, et l'écoute aussi. Je me dis, là, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi.
Merci beaucoup, Xavier Beau, pour ton temps et tes réflexions.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat. Encore merci et au prochain épisode.